athlétiques et performances sportives. Donc, j'en profite pour peut-être présenter rapidement Yannick de la Fondation et Christina. Et peut-être un petit mot pour décrire la Fondation, son activité autour de trois axes. Donc, les chairs, les actions transversales autour de la solidarité, de l'inclusion, l'accompagnement d'étudiants sur des projets, et puis les alumni et l'animation de ce réseau des anciens. Donc, je vais m'arrêter là et vous souhaiter une belle conférence, pleine d'échanges scientifiques, numériques, et puis humains, parce que sans l'humain, on n'échange pas grand-chose. Voilà, je cède la parole à Catherine et Eric pour enchaîner sur cette
acronyme en anglais de Governing Digital Organization, gouverner l'organisation numérique. Donc Éric Peuzet a initié le projet de création de la chaire dès 2019, relever ce défi de l'interdisciplinarité. La chaire offre un terrain favorable à la rencontre entre la demande d'une ou plusieurs entreprises et les compétences de chercheurs de toutes disciplines. En droit, en management, en sciences de l'information et de la communication, en linguistique, en géographie, en psychologie environnementale, en sciences du sport, etc. Cette interaction entre la recherche et les entreprises partenaires est un modèle stratégique qui permet d'identifier avec pertinence les problématiques posées par la numérisation des organisations. Le modèle de management de la chaire prend ainsi la forme de conférences interdisciplinaires sur les problématiques de mise en données de la société. Aujourd'hui, il s'agit de la 7e conférence de la chaire Godot. Ce terrain fertile d'exploration a reçu un accueil très favorable de la part des entreprises Planon, Stotter et du CFA AFIA, et grâce au soutien de la CTI des Hauts-de-Seine et de son club des affaires Gojop, représenté aujourd'hui par Thierry Millet, que je remercie beaucoup pour sa présence, de nouveaux partenaires nous accordent aujourd'hui leur confiance, comme le cabinet Nova Minds ou encore l'entreprise Josa IT. Cette politique de communication et de partage des savoirs permet également de valoriser donc les travaux menés par nos étudiants dans le cadre de leur master et de conclure plusieurs contrats postdoctoraux. Les travaux de la chaire se développent à partir d'un programme scientifique orienté sur des priorités d'analyse des processus de numérisation. Et pour le moment, nous en avons identifié 4 priorités. La question de l'espace numérique avec des sous-thèmes comme la gouvernance des données du bâtiment, les données de mobilité ou encore le partage stratégique des données entre différents acteurs, la gestion des ressources humaines et le numérique, la numérisation du corps humain comme lieu d'échange de données et enfin la cybersécurité. À 406 jours des Jeux Olympiques à Paris, vous avez vu, j'ai compté, hein. Et aujourd'hui est un jour important puisque nous annonçons donc le parcours de la flamme olympique qui commence donc en Normandie, là d'où je viens. Donc à 406 jours donc les JO à Paris, l'apport du numérique à la construction de la performance sportive est un thème de recherche fédérateur. Il réunit en effet des chercheurs de toutes disciplines dont les analyses pourront être discutées par les acteurs de sport de haut niveau, qu'ils soient représentants de l'Agence nationale du sport, préparateurs sportifs, analystes de performance ou encore athlètes de haut niveau. Et je remercie donc chaleureusement tous nos intervenants. Depuis plus de 20 ans, le sport est bien saisi par le numérique, que ce soit dans la préparation des sportifs ou dans le suivi de leur performance. Quelles sont les données collectées? Il s'agit de données biométriques, comme la fréquence cardiaque, des données d'entraînement, comme la distance parcourue, des données de performance, comme le nombre de buts marqués ou la position sur le terrain, des données de récupération, comme la qualité du sommeil, des données nutritionnelles, comme le nombre de calories consommées, et des données de mouvement pour analyser la biomécanique et les modèles de mouvement des sportifs. Le traitement de ces données personnelles peut ainsi permettre de lutter contre le dopage, détecter des nouveaux talents, prédire le risque de blessure en évaluant les forces et faiblesses d'un athlète, ajuster les programmes d'entraînement, optimiser les stratégies de jeu ou encore augmenter le potentiel de médaille de la France aux Jeux Olympiques. En raison de leur valeur potentielle, ces données peuvent être utilisées notamment à des fins commerciales par des fabricants de dispositifs sportifs ou à des fins de statistiques par les médias sportifs. D'un point de vue juridique, ces données font l'objet d'une protection particulière par les textes afin de garantir le respect de la vie privée des intéressés, ici nos athlètes. Même si les conditions d'accès, de transmission et d'hébergement de ces données disposent d'un cadre juridique strict, les failles de sécurité ne cessent d'augmenter. La croissance rapide des technologies permet certes d'améliorer cette sécurité, mais tout ne repose pas sur la robustesse des technologies qui ne représentent que 30% de la sécurisation des systèmes d'information. Le comportement humain est donc un élément déterminant dans la gestion des données de sport. De nombreuses difficultés opérationnelles augmentent ainsi le risque d'une mauvaise gestion des données collectées, comme les difficultés liées à la volumétrie de ces données, leur hétérogénéité, le manque de temps et parfois de compétences de la personne en interne qui possède les données, la mise en forme des données pour s'assurer qu'elles ne permettent pas la réidentification des personnes physiques, ni ne contiennent d'informations sensibles dans le respect du RGPD. On sait que les données personnelles se monnaient très bien sur le Darknet et que depuis l'entrée en vigueur du RGPD en mai 2018, la CNIL reçoit de plus en plus de plaintes, plus de 12 000 l'an dernier. Voilà, j'ai rempli mon rôle de juriste en alertant sur les risques du numérique. Il reste que la performance sportive ne peut plus se construire aujourd'hui sans cet apport du numérique qui procure les bénéfices immédiats. Et dans une première partie, il sera donc question de la collecte et de l'analyse des données pour repousser les limites de ce qui est possible dans le domaine sportif et notamment le football. Puis dans la seconde partie, un rugbyman et un nageur, tous deux de haut niveau, viendront nous expliquer comment ils tirent profit du numérique pour augmenter leur performance. Les débats seront animés par Eva Moffat. Je la remercie d'avoir accepté le rôle de modérateur et je lui donne immédiatement la parole pour ouvrir donc cette première partie.
Merci Catherine. Je vais donc introduire cette première partie, collecte et analyse des données, qui permettra d'échanger sur ce thème-là. Benoît Schuller commencera, donc responsable du sport Data Hub à l'Agence nationale du sport. Ensuite sera suivie une présentation de Ramin Mahmoudi, maître de conférence en sciences de gestion et management à l'Université d'Orléans. Et pour finir, Aziz Madimogne, coordinateur du projet sportif au FC Lorient, nous rejoindra.
Alors, ben, bonjour à tous. Je vais me présenter rapidement. Benoît Schuller, donc je travaille à l'Agence nationale du sport et je suis professeur de sport. Voilà, je suis issu de la lutte. J'ai été sportif, entraîneur national. J'étais un adjoint à la Fédération française de lutte avant de basculer, de passer par le ministère des Sports. Finir du coup sur mon parcours, donc j'ai basculé ensuite au ministère des Sports, en charge du sport de haut niveau, mais plutôt sur la partie réglementaire, avant d'intégrer l'Agence nationale du sport en juin 2021, donc ça fait 2 ans. Donc voilà, donc j'ai intégré l'Agence nationale du sport en charge du sport Data Hub et l'idée c'est de vous présenter un petit peu le sport Data Hub, justement quelle est l'origine déjà du sport Data Hub. Et il y a un contexte qui est forcément celui de la nomination de la France aux Jeux Olympiques, donc pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, c'était en 2017 à Lima. Depuis, tout le monde s'est un petit peu activé et essayer de voir quels pourraient être les leviers qu'on pouvait activer pour essayer de faire en sorte que les performances sportives des Français à Paris soient les meilleures possibles. C'est comme ça que s'est créée l'Agence nationale du sport en 2019 et que les data, en tout cas l'utilisation des données et des outils numériques dans la préparation des sportifs, pouvait être activée comme étant un levier de performance et surtout à travers un constat qui était celui qu'on était très en retard par rapport à la concurrence internationale. Je parle principalement du sport olympique et paralympique et pas du sport pro, donc certains en France sont largement, peut-être pas en avance, mais largement au niveau même de la concurrence internationale, mais sur le sport amateur, avec des fédérations qui ont parfois pas beaucoup de moyens, on était encore souvent au papier-crayon, quand le papier-crayon existait, pour parler uniquement de l'œil du maquignon et d'une connaissance uniquement empirique et pragmatique et qui était dans la tête des entraîneurs. Donc, on s'est aperçu qu'effectivement, à travers que ce soit l'analyse vidéo, que ce soit l'analyse et le recueil de données sur les conditions d'entraînement, sur la charge interne, la charge externe, sur toutes les variables de l'entraînement, il y avait vraiment une possibilité d'apporter une amélioration, une individualisation, une optimisation de l'entraînement de nos sportifs pour enfin, Catherine l'a évoqué en préambule, pour effectivement essayer d'éviter les blessures, puisqu'un sportif qui est blessé, par définition, ne s'entraîne pas, donc soit régresse, soit en tout cas ralentit sa progression, et s'il est en capacité de s'entraîner, il y a quand même toutes les chances qu'il soit en capacité de performer. En 2020, suite à ce constat, et donc il y a eu plein d'échanges avec toutes les fédérations, avec tous les acteurs du sport de haut niveau, le choix qui a été porté est celui de porter un projet d'envergure nationale. Il y avait deux possibilités, soit financer chaque fédération, chaque projet individuellement et de faire peut-être un peu plus de coûts humains, mais par contre de ventiler ou en tout cas de diviser les moyens, soit de porter au niveau national une vraie stratégie en mutualisant les moyens financiers et humains de la direction des sports, donc du ministère, de l'Agence nationale du sport qui venait d'être créée, et puis de l'INSEP qui est quand même au niveau du sport olympique et paralympique, l'ALCEP de Pont et qui est vraiment le, ben voilà, celui aussi qui dirige le réseau du grand INSEP et tous les établissements sur le territoire à travers les CREPS. Et donc, ce choix-là a été fait. Alors, c'est un choix fort, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il y a aussi une direction nationale avec la mise à disposition d'outils à destination des fédérations, des directeurs de performance, des DTN, des entraîneurs et forcément à destination des sportifs. Donc, convention du SDH signée en juillet 2020 avec cette mutualisation dont je vous parlais et avec un grand objectif qui était vraiment celui d'optimiser la performance individuelle. Donc là, en parlant des sportifs, mais aussi collectifs dans l'organisation et dans le pilotage du sport de haut niveau en France. Donc, on verra après dans les différents cas d'usage. On a forcément des outils, des cas d'usage, des enjeux au niveau de l'optimisation et de l'entraînement, mais aussi sur le pilotage, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent et d'argent public qui est injecté dans la préparation des sportifs pour Paris 2024. Et l'idée, ben, c'est de l'orienter de la meilleure manière possible et de l'utiliser de la meilleure manière possible. Donc, il y avait une petite vidéo, mais je suis pas sûr que ce soit le décalage, elle est accessible en ligne. Vous pourrez aussi sur le lien la retrouver. C'est une petite vidéo qui illustre un petit peu mes propos et la suite de mes propos. Et je pense que c'est peut-être plus simple. Voilà. Si vous allez la voir directement, ça gagnera un petit peu de temps et ça restera un peu plus de temps aux échanges en plus. Pour résumer, en gros, ce qu'on a mis en place depuis 3 ans, il y a pas mal de choses. Donc, il y a une partie sur l'infrastructure avec des serveurs. On en parlait sur la sécurisation des données, sur la gouvernance des données avec des juristes, avec un travail engagé avec la CNIL. Donc, il y a bien une plateforme matérielle avec des data centers qui sont hébergés en France, avec toutes nos solutions qui sont hébergées en France et où on essaye de rester souverain de nos données, de pas les diffuser, de pas les envoyer dans le cloud. Mais surtout, voilà, on a 3 objectifs opérationnels et on va voir certains cas d'usage. Celui dont on a déjà parlé qui permet vraiment d'essayer d'avoir un meilleur suivi de l'athlète. Alors autant un suivi fin de son entraînement, mais aussi un suivi de son environnement socio-professionnel, de sa formation, de son emploi, de ses temps de récupération. Donc voilà, il y a tout ça, le suivi aussi de ses performances en compétition. Le deuxième axe, j'en ai parlé un petit peu, c'est le pilotage et l'organisation du sport de haut niveau en France. L'agence s'est créée, alors pas de rien, parce qu'il y avait forcément l'historique, il y avait la mission, la MOP à l'INSEP, il y avait historiquement toujours eu des instances qui géraient le sport de haut niveau, réparties des fois entre le ministère, entre l'INSEP, entre les anciennes MEX, missions d'expertise et de performance, les préparations olympiques et paralympiques. Et tout ça a été recentralisé au niveau de l'agence avec la création d'un GIP qui repartait de zéro et avec parfois tout simplement pas d'outils de gestion et d'organisation de tout le sport de haut niveau en France. Sans parler, on a aussi rajouté une couche dans cette organisation. L'INSEP est resté, les CREPS sont restés, le ministère des Sports est resté. On a rajouté l'Agence nationale du sport, on a rajouté les maisons régionales de la performance qui sont la déclinaison territoriale de l'Agence nationale du sport. Et donc, il y avait aussi, à un moment donné, besoin d'outils qui permettent de partager l'information, de travailler ensemble, et on a le sportif, voilà, que ce soit dans les territoires, que ce soit à l'INSEP, que ce soit par le suivi de l'Agence nationale du sport, ça reste le même sportif. Et à un moment donné, il a les mêmes besoins, et si tout le monde ne partage pas l'information, ben, il peut y avoir soit des actions qui sont contre-productives ou qui sont pas en cohérence avec les uns et les autres. Et puis, bien sûr, il y a cette notion de structuration de la donnée, de stockage de la donnée, puis d'analyse, de création de bases de données qui soient structurées, organisées à travers un entrepôt de données. Donc ça, on le verra un peu plus en détail. Les publics prioritaires, je passe rapidement, bien sûr, ce sont les sportifs et tous ceux qui les accompagnent, de l'entraîneur au DTN, aux référents suivis sociaux pro, tous les accompagnateurs, préparateurs physiques, préparateurs mentaux, tous les staffs qui tournent autour des sportifs. Les décideurs, c'est l'Agence nationale du sport, c'est le ministère des sports, c'est aussi associé le CNOSF, le CPSF, donc tous les acteurs et les décideurs. Et puis, il y a un axe sur lequel, à travers cette infrastructure et puis à travers la constitution de cet entrepôt de données du sport de haut niveau français, et c'est un axe sur la recherche. Donc, on héberge, on travaille forcément, puisque l'INSEP est partie prenante du Sport Data Hub, les travaux des laboratoires de l'INSEP, de l'IRMES et du CEP, et qui sont aussi porteurs de certains PPR, des projets prioritaires de recherche. Parallèlement donc à la création du Sport Data Hub, il y a eu aussi 20 millions d'euros injectés pour le sport de haut niveau et pour la préparation des Jeux Olympiques par l'Agence nationale de la recherche. Et il y a j'ai plus le nombre exact de mémoire, mais une bonne quinzaine de PPR qui ont été mis en place, dont certains sont portés par l'INSES, en partenariat des fois avec l'INRIA, et puis certains qui sont portés par des laboratoires sur le territoire. Donc les PPR portés par l'INSEP utilisent l'infrastructure, les serveurs de calcul, tous les logiciels, que ce soit les logiciels de codage, d'âge entreprise, R, etc., sur les serveurs du SDH. Et à terme, on espère qu'à travers la constitution et puis la collecte et la récolte de toutes ces données, en lien avec les fédérations et avec les acteurs de terrain, on arrivera à leur mettre aussi un peu de matière à disposition pour aller un petit peu plus loin dans le croisement et dans l'analyse de ces données. En gros, on intervient au niveau du Sport Data Hub sur l'ensemble de la chaîne de traitement. On a des outils à la fois de collecte interne, dont on maîtrise la collecte, notamment tout l'environnement juridique, la conformité RGPD, avec les bases légales. Sur une évolution, puisqu'on est plutôt basé au départ sur le consentement du sportif, et en travaillant avec la CNIL, avec la Direction des Affaires Juridiques du ministère de l'Éducation nationale, on évolue vers la mission d'intérêt public à travers un texte qui permettra d'être à la fois un peu plus souple, un peu plus sécurisant et un petit peu plus pérenne aussi dans le temps. Cette collecte, elle se fait soit directement à travers les outils, je vous montrerai quelques-uns de ce qu'on a. On a notamment un athlète management system qui est Athlète 360, qui s'appuie sur la technologie de fusion, qui est une boîte australienne, mais qu'on a installée on-premise sur les serveurs du SDH, et on est notamment un des seuls pays, parce qu'on est vraiment tenu à cette souveraineté de nos données, où elles ne partent pas dans le cloud, elles ne partent pas à l'étranger. Et à notre connaissance, je crois qu'il y a les Navy Seals qui fonctionnent comme ça, et peut-être une ou deux entités. Mais sinon, tous ceux qui utilisent, par exemple, cette plateforme Fusion, SmartBase, les données partent à l'étranger. Et nous, c'était dans l'offre, en tout cas dans le marché public qui a été passé avec cette entreprise, une des conditions sine qua non, c'est-à-dire que les données doivent être stockées dans nos serveurs qui sont géographiquement situés à Vitry et Vélizy. Deux data centers dupliqués, en cas de pas d'incendie, c'est pas une vue de l'esprit, ça arrive. Peut-être des souvenirs de ce qui s'est passé à OVH, où l'immeuble entier a brûlé et toutes les données ont été perdues. On s'est retrouvé quelques fédérations un petit peu en difficulté. Toutes leurs bases de données étaient stockées chez OVH et ont disparu dans l'incendie. On a aussi cette sécurisation de la donnée. Donc la collecte directe et indirecte, puisque toutes les fédérations et le Sport Data Hub n'a pas vocation à avoir un monopole sur l'utilisation des outils. On a plus une vocation d'essayer de collecter et de constituer l'entrepôt de données du sport français. Donc les fédérations, certaines travaillent déjà avec des solutions du marché, que ce soit MyCoachPro, Quelsharp, Nolio, plein d'autres outils qui existent sur le marché qui leur permettent de collecter de la donnée sur leur entraînement avec des capteurs Garmin, Polar, tous les GPS, les plateformes de force, les Wattbike. Plein d'outils, en tout cas, qui sont souvent très spécifiques à chaque fédération. Et l'idée, c'est pas de leur imposer le passage à nos outils, c'est par contre de les interconnecter et de leur permettre de sécuriser leurs données à travers le Sport Data Hub pour qu'elles puissent, derrière, toujours les réinterroger. Si jamais, et là aussi, c'est pas une vue de l'esprit, une entreprise fait faillite ou multiplie par 10 son tarif, ça leur permet d'avoir sécurisé leurs données dans le Sport Data Hub, éventuellement, les réinjecter, les réutiliser d'autres outils du marché. Donc on assure cette deuxième partie qui est le stockage architecturé, normé, le plus sécurisé possible. Là aussi on travaille, hier encore on était avec la DINUM, on travaille avec l'ANSSI, donc on essaie de se rapprocher le plus possible des normes imposées par l'État dans la sécurisation des données, puisque les trois institutions sont des institutions publiques et étatiques. Donc on a cette partie de stockage. Ensuite, il y a toute la partie justement utilisation, analyse de ces données. Alors certains cas d'usage, on les porte en interne avec des équipes de data scientists, de sport scientists, et qui permettent derrière de générer directement des tableaux de bord et de restituer des analyses aux acteurs de terrain, que ce soit les entraîneurs et parfois directement les sportifs. Là, très très rapidement, je passe, c'est toutes les offres, en fait, l'offre de services et applicatifs. Donc on a à la fois des outils, à la fois des services d'accompagnement pour permettre cette collecte, ce stockage, cette analyse, cette restitution des données. On a un suivi qui s'adresse parfois spécifiquement sur de l'optimisation de l'entraînement, sur de l'analyse vidéo, sur de la captation de ressentis, la collecte de données de ressentis quotidiennes, de charges d'entraînement programmées et ressenties par l'athlète, la collecte de tous les capteurs. Qu'ils soient cardio-fréquence-mètre, variabilité de la fréquence cardiaque, analyse d'urine, toutes ces données-là peuvent être collectées soit à travers Athlète 360, soit à travers les outils qu'utilisent les fédérations. Et puis, on a pas mal d'outils de gestion aussi qui permettent de stocker tout ça et d'organiser tout ça. Je vais aller même assez vite, comme ça permettra peut-être d'échanger aussi et puis de rebondir et puis de répondre aux questions s'il y a des questions. Un outil qui est historique, qui est le PSQS, donc qui est le portail de suivi quotidien des sportifs. Il y a déjà une quinzaine d'années, donc qui remonte à l'avant RGPD, qui remonte à un besoin, notamment des établissements sur tout le territoire, de pouvoir suivre leurs sportifs. Alors, dans le suivi quotidien, ça allait jusqu'à la gestion de l'internat, la gestion avec les professeurs principaux dans l'aménagement de la scolarité et la coordination du temps sportif et du temps scolaire. Et puis, ça va aussi sur le suivi de leur formation, de leur diplôme, de leur revenu, des tableaux de bord qui permettent de communiquer aussi avec les parents pour les mineurs. Donc, on a toute cette base de données qui existe déjà depuis une quinzaine d'années, qui a été fusionnée avec la base du sport de haut niveau du ministère en 2017, qui étaient les prémices du SDH. Et on s'est appuyé sur tout cet existant et on a, en gros, 100% des sportifs et des structures d'entraînement qui sont validées dans le cadre réglementaire du sport de haut niveau, donc sur les listes ministérielles et à travers les PPF, les projets de performance fédéraux, des fédérations qui relèvent aussi d'un arrêté ministériel, donc 100%. Des sportifs qui sont attachés à ces PPF et des structures qui sont attachées à ces PPF sont identifiés à travers le PSQS, ce qui nous permet d'avoir un identifiant unique pour chaque sportif et derrière de lui rattacher toutes ces données. Donc on a des données administratives, réglementaires, mais aussi des données d'entraînement, des données de formation et un petit peu tout ce qu'il y a. On a aussi toutes les données, alors on n'a pas de données médicales à proprement parler, puisque là on se heurte derrière au secret médical et à toutes les contraintes de sécurisation, de stockage sur des serveurs homologués. Donc, quand on parle de la SMR, qui est la surveillance médicale réglementaire du sport de haut niveau, là aussi encadrée par le code du sport, on parle juste, en fait, de savoir s'ils ont fait des examens ou pas. On ne récolte pas, par exemple, les imageries médicales ou directement les relevés de fréquence cardiaque ou les tests qui peuvent être demandés par les fédérations. Là, c'est les médecins fédéraux qui les gardent. On a aussi toutes les données qui sont en lien avec les résultats des sportifs. Là aussi, on collecte pas mal de données, de résultats, principalement sur les compétitions internationales. On se fournit auprès d'un fournisseur dans le cadre d'un marché public et qui est un fournisseur qui alimente quasiment toutes les grandes nations, que ce soit UK Sport, Team USA, tous nos concurrents, l'Allemagne, l'Italie, qui s'appelle Infostrada. GressNote, une fusion des deux, et qui nous permet de récolter tous les résultats de toutes les compétitions internationales, sur les fédérations olympiques principalement, et en partie paralympiques. Ce qui nous permet derrière aussi d'adresser d'autres cas d'usage sur l'identification des performances de nos sportifs, sur leur couloir de performance, comparer leur âge, où ils en sont par rapport à la concurrence internationale au même âge, le niveau à atteindre pour être dans les tout meilleurs et donc d'identifier aussi un petit peu mieux notre population par rapport à la concurrence internationale. Là, c'est une petite capture d'écran de Visor. Donc, c'est un des cas d'usage qui arrive en toute fin de chaîne et qui vient interroger justement toutes ces données qui sont collectées soit par nos outils en interne, soit qui sont récoltés par les fédérations et qui permettent de générer des tableaux de bord à destination des utilisateurs. Donc tous les dispositifs de suivi et d'accompagnement des sportifs de haut niveau, comme les aides personnalisées, comme les contrats de performance auprès des fédérations. Donc il y a quelques millions qui sont injectés auprès des fédérations pour accompagner leurs projets de performance, accompagner les sportifs en stage, alimenter les staffs à travers des préparateurs physiques, des kinés, des préparateurs mentaux. Et donc, on arrive à travers l'interrogation de ces bases de données, voilà, d'avoir un suivi assez fin de chaque fédération. Alors là, je ne vais pas montrer les captures d'écran, c'est aussi quelques soucis de confidentialité. Voilà, on descend jusqu'au grain d'un sportif, on arrive à savoir quel est l'argent public dont il a bénéficié. Alors, on s'occupe pas forcément de l'argent privé, de ses sponsors, mais au moins l'argent public qui est injecté pour le sport de haut niveau à destination d'un sportif ou d'une fédération, on arrive à le suivre de manière assez fine. Un des cas d'usage, donc Médaillabilité, qui est un outil justement qui exploite la base de données d'InfoStrada, de GlassNode, de tous les résultats qu'on collecte, donc qui est principalement alimenté, cette base de résultats, par InfoStrada, mais qui est aussi alimenté par des API qui sont issues des sites des fédérations internationales quand elles existent. Et ça permet justement de calculer des ratings, de mesurer en fonction de l'évolution des compétitions, des adversaires qui sont présents sur ces compétitions, donc du niveau intrinsèque de la compétition. On peut avoir une Coupe du Monde où il y a beaucoup de concurrents et où la concurrence est quasiment équivalente à celle d'un championnat du monde, voire des Jeux olympiques. Et puis, il y a des Coupes du Monde qui sont à un niveau complètement inférieur. Donc là, il y a tout un calcul de points en fonction de l'adversité pour permettre de voir l'évolution. Et si nos sportifs sont en décrochage, plutôt en progression et se rapprochent du top niveau, qui est l'objectif, c'est bien sûr la médaille olympique et surtout l'or olympique. Donc, on arrive à travers ça à suivre leur couloir de performance, l'écart au meilleur. Athlète 360, donc c'est l'AMS qu'on utilise avec la solution de SmartLabase Fusion, qui est pilotée principalement par l'INSEP, mais qui est à destination, en tout cas qui est mis à disposition de l'ensemble des fédérations et des établissements du réseau Vent-INSEP, donc des CREPS et des maisons régionales de la performance. On a à peu près 20 fédérations qui sont utilisatrices, 5 ou 6 maisons régionales de la performance, donc qui accompagnent aussi des pôles qui sont implantés dans les établissements publics. Il y a à peu près 1500 sportifs qui sont passés ou qui sont encore en cours de suivi sur Athlète 360. Et nous, on a une équipe de sport scientists qui accompagne spécifiquement 10 projets de 10 fédérations quasiment au quotidien. Ils ont à peu près 3 chacun et ils vont sur le terrain. Ils expliquent ils définissent avec les entraîneurs, avec les directeurs de performance, quelles sont les données qui sont à collecter. Ils créent avec eux les formulaires permettant la récolte de ces données et vont jusqu'à le déploiement sur le terrain, expliquer aux sportifs pourquoi c'est important d'avoir un suivi, pourquoi ces données, pour qu'elles puissent parler et qu'elles puissent identifier un profil du sportif qui est vraiment un profil individuel en fonction de son ressenti. Un sportif qui va avoir un ressenti d'une charge d'entraînement, en tout cas d'une difficulté de 8 sur 10, d'un sportif à l'autre, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Si la norme du sportif, pour lui, le ressenti de sa charge d'entraînement, c'est 6, quand il va mettre 8 dans la collecte quotidienne, c'est qu'on est déjà dans une charge supérieure à la normale. Inversement, si sa moyenne, c'est 8, quand il va mettre 8, c'est qu'en fait, c'est une charge normale. Et lui, la supérieure, c'est quand il va mettre 10. Mais c'est pareil pour le ressenti de son état de sommeil, de son état de fatigue. Et donc, tout ça, ça permet d'identifier vraiment des profils individuels avec des niveaux d'alerte. Et le niveau d'alerte, il est vraiment spécifique à chaque sportif. Et derrière, ça permet, avec la donnée qui est collectée sur la durée, ça, on ne peut pas le faire en collectant des données sur une semaine ou sur un mois. Il faut au minimum 6 mois de collecte, voire 1 an, pour que les données puissent commencer à parler et commencer à identifier un profil du sportif qui puisse être intéressant, qui puisse permettre à l'entraîneur d'adapter sa charge d'entraînement, éventuellement de le mettre au repos. Donc, ça fait partie des outils, comme la variabilité de la fréquence cardiaque fait également partie des outils d'adaptation, d'identification des seuils de fatigue et potentiellement donc des seuils de blessure. Dans les autres outils, donc là je vous ai pas mis de capture d'écran, mais on a un séquenceur en vidéo qui permet aussi l'analyse vidéo et de créer ces séquenceurs vraiment. Et donc sur l'analyse vidéo, on a un séquenceur en vidéo. Alors là aussi, on n'a pas de volonté du monopole. Il y a Dartfish, il y a plein d'outils sur le terrain. Par contre, le constat, c'est aussi que les fédérations utilisaient ces outils à hauteur de 5% de leur capacité, en gros, et payer des licences assez chères. Et des fois, quand ils avaient besoin d'une fonctionnalité très spécifique, ils ne la retrouvaient pas. Donc, on a développé un outil qui permet de créer les tableaux de séquençage vidéo avec les entraîneurs directement, de placer les boutons là où on veut, de créer vraiment à l'image, quasiment même pas d'une discipline, mais d'un entraîneur, son tableau de séquençage ou de l'analyste vidéo quand les fédérations ont un analyste vidéo et permet de gagner un petit peu de temps. Sur l'idée de tout ça, c'est foisonnant. On a beaucoup d'outils, il y avait beaucoup d'existants, il y a beaucoup de choses qui ont été développées aussi et qui permettent de répondre principalement et rapidement à des besoins utilisateurs identifiés par les fédérations ou les entraîneurs. Et du coup, on a surtout, avant tout, voulu répondre aux besoins urgents et opérationnels des acteurs de terrain. Mais l'objectif, c'est derrière tout ça, et on en parlait avec Amine tout à l'heure, c'est que, effectivement, si vous allez sur Internet, vous n'allez pas trouver grand-chose sur le SDH. C'est d'abord une volonté, parce que c'est pas destination du grand public, mais bien destination des utilisateurs. Et ensuite, parce que avant d'arriver à cette vitrine et à cette plateforme qui pourrait être à la fois un accès public, on pourrait expliquer tout ce qu'on fait sans rentrer dans les données, sans rentrer dans le détail et les infos personnelles, mais à la fois un accès privé qui là permettra à chacun des acteurs de réaccéder à ses outils, à ses données, à son suivi. Donc c'est le projet qu'on a en cours et qui va voir le jour là à la fin de l'année où on aura vraiment ce portail qui s'appellera France.sport et qui centralisera toute l'offre de services, toute l'offre applicative dont je vous ai prévu et qui devrait répondre à tous les besoins des acteurs. Alors, bien sûr, le sportif, l'idée c'est que dès que le sportif aura une question sur son suivi socio-professionnel, il a besoin d'un aménagement de sa scolarité, il est en situation d'emploi mais il n'est pas libéré pour pouvoir s'entraîner, il puisse avoir tout de suite les bons interlocuteurs, les bons suivis. Et quand il a accès à des outils comme Athlète 360, comme Meta Vidéo, comme son analyse vidéo, il puisse aussi retrouver directement ses données. Et c'est pour ça qu'on tend vers cette maison numérique du sport de haut niveau français qui va réunir tout ce qui est fait au sein du sport data hub, mais pas que. On associe aussi le CNOSF, le CPSF, la SDTN, le CPDE, c'est tous les établissements publics, pour qu'on mutualise tout ça et qu'il n'y ait plus qu'une seule et unique porte d'entrée. Alors, on a réussi techniquement, pour l'instant, à harmoniser l'authentification et l'identification à tous ces outils. C'est-à-dire que tous les utilisateurs ont déjà qu'un seul mot de passe et qu'un seul identifiant, ce qui leur facilite déjà, mais ils doivent naviguer d'un outil à l'autre. L'idée, c'est qu'à travers France.sport, ils auront accès à tout ça en se loguant une fois et en naviguant directement dans un espace personnel, en n'ayant accès qu'aux outils pour lesquels ils auront déjà un compte et déjà une utilisation. Je vous remercie de votre attention.
Merci Benoît Schuller, donc responsable Data Hub, Sport Data Hub à l'Agence nationale du sport.